Chers auditeurs, bonsoir. Retrouvons Henri de Villiers, donc je rappelle, maître de chapelle Saint-Eugène, à Scola Sainte-Cécile, et puis à la paroisse russe catholique de la Très Sainte Trinité, rue François Gérard, dans le 16e arrondissement, liturgie tous les dimanches à
9h15.
À 9h15, chers auditeurs, si vous voulez découvrir la liturgie russe dans une paroisse catholique.
Bonsoir cher Benjamin Blanchard, bonsoir chers auditeurs.
Alors nous sommes dans une série d'émissions à la découverte des églises d'Orient, je crois que c'est le 7e épisode, si ma mémoire est fidèle. Nous avons consacré 2 émissions à la découverte des églises assyriennes et chaldéennes, hein. Je dis bien des puisqu'il y en a plusieurs. Ensuite on s'est attardé un peu plus longtemps, 3 émissions sur les églises syriaques.
Oui.
Et puis là, maintenant, depuis le mois dernier, nous commençons la découverte des églises coptes, de la liturgie copte. Et donc, le mois dernier, vous nous aviez d'abord parlé de l'histoire de cette église copte. Mm-hmm. Comment est-ce qu'elle a émergé, la séparation avec les autres églises. Et puis, vous aviez commencé à évoquer les prières préparatoires à la messe. Et donc là, cette fois, nous allons commencer à découvrir la messe, la liturgie copte, cette liturgie que vous pourrez, à laquelle vous pourrez participer si vous venez au voyage de Marie-Gabrielle pour Noël 2017.
Alors on avait vu en fait tout ce qui précédait la messe, alors l'habillement du prêtre, l'office divin qui est très copieux, qui comprend les heures de prime, l'office de l'encens qui est une particularité de l'office divin copte, l'office de tierce dont on avait écouté quelques extraits et l'office de sexte qui sont les offices qui doivent être dits avant le début de la messe, les jours ordinaires, les jours de fête. On y rajoute aussi d'autres offices, les jours de jeûne, où la liturgie est un peu retardée de ce fait. Et on arrive au début de la messe, qui démarre, comme dans le rite syriaque que nous avons vu précédemment, comme dans la liturgie byzantine que nous verrons peut-être un jour, par la préparation des oblats, la préparation du pain et du vin qui vont être utilisés pour le sacrifice. C'est un office en soi qui existe également en Occident, dans le rite dominicain. En fait, certains rites, donc ceux qu'on vient de citer et le rite copte, ont adopté d'anticiper la préparation des oblats avant la messe elle-même. La plupart des autres rites ont gardé la structure plus ancienne d'une préparation du pain et du vin à l'offertoire, qui était la disposition primitive. Les fidèles apportaient les offrandes, leurs offrandes, au moment de l'offertoire, et parmi ces offrandes, il y avait le pain et le vin qui étaient la matière du sacrifice ensuite. Alors pourquoi cette anticipation de la préparation du pain et du vin avant la messe proprement dite ? Il y a plusieurs explications qu'on pourrait donner, sans doute des aspects pratiques, et puis sans doute que ces églises qui ont adopté cette disposition ont pris acte très tôt de la fin du catéchuménat, car pendant les premiers siècles, en fait, il y avait des catéchumènes qui n'assistaient qu'à la première partie de la messe, là où on fait les lectures, ce qu'on appelle la messe des catéchumènes. Voilà. Et en fait, les fidèles offraient leur offrande ensuite à l'offertoire et ont commencé le Saint-Sacrifice eucharistique. Ces églises byzantines, syriaques, coptes ont été dans des sphères où finalement le christianisme s'est développé très vite et très tôt, et où très vite le catéchuménat adulte a été réduit à peu de choses, puisque la plupart des gens étaient baptisés enfants, et de ce fait la nécessité de réserver l'apport des dons des fidèles au moment de l'offertoire tombait, et donc on pouvait l'anticiper, voilà.
Et quand vous dites raison pratique, qu'est-ce que ça pourrait être ?
Alors, le pain, par exemple, comme dans la liturgie chaldéenne, est préparé par le clergé, et il arrive chaud. Il vient d'être cuit, en fait, et donc on l'apporte directement à l'autel.
Est-ce qu'il est cuit dans une pièce particulière qui est juste à côté, comme nous voyons en Éthiopie ?
En Éthiopie, pas nécessairement, mais ça devait être l'usage ancien, oui. Là, chez les Coptes, ce sont les diacres qui préparent ces pains et ils font cette préparation. Alors, souvent, quand ce n'est pas des diacres, ça peut être des pieux laïcs également.
Alors, le professeur Sadek qui accompagne le voyage donc, par Lyon pourrait préparer le pain puisque c'est un diacre de l'église copte.
J'imagine. Voilà. Alors, ce n'est pas une préparation banale parce que cette préparation est entourée de psaumes et de prières. On voit que dès la confection du pain, finalement, on entoure de prières la matière qui va devenir le Saint-Sacrifice, en fait. Les diacres apportent le pain et le vin à l'autel. Le prêtre s'est avancé à l'autel et il reçoit face à l'assemblée les saintes espèces. Traditionnellement, on sonne les cloches à ce moment-là, dans l'église copte. Et puis là, il y a une cérémonie un peu inusuelle qu'on va trouver que dans l'église copte. Oui.
Donc il y a des cloches dans les églises coptes.
En principe, oui, ça peut être aussi des cimandres.
Est-ce qu'il y a des cloches partout dans l'église universelle?
Peut-être qu'en Éthiopie, les cloches sont un peu plus étranges, mais ils ont des genres de cloches en bois, enfin des cimandres, oui, bien sûr, mais également des cloches en pierre qui produisent un son assez similaire au bruit d'une cloche en métal.
D'accord, donc vous dites que les cloches, c'est pratiquement
quelque chose
d'universel
dans
toute la chrétienté.
Oui, tout à fait. Et ce qui est important aussi, ce qu'on a un peu perdu en Occident, en France en tout cas, c'est le sens de sonnerie de cloche au moment important de la liturgie, en fait. C'est très présent chez les Grecs. Autrefois, en France, par exemple, on sonnait les cloches au moment de l'élévation. Il nous en reste les clochettes, mais certains endroits le font encore. Et puis, mais à d'autres moments également, par exemple, pendant les séquences avant l'évangile, on sonnait également les cloches à pleine volée.
C'est ce qui reste.
On sonnait le glas pendant le Libérame.
C'est ce qui reste pour la séquence de l'Épiphanie, c'est ça?
Non, mais c'est un usage qu'à Saint-Eugène, on essaie de rétablir un peu, mais qui a quand même en pratique disparu. À Malte, par exemple, on sonne les cloches pendant le Magnificat ou bien pendant la bénédiction du Saint-Sacrement ou salut du Saint-Sacrement.
Puisque pour les auditeurs de Radio Courtoisie, nous rentrons de pèlerinage à Malte avec la Scola Sainte-Cécile, où pendant une semaine, la Scola Sainte-Cécile et les clercs de Saint-Eugène avec l'abbaye Bora ont donc chanté, célébré chaque jour la messe et les vêpres le soir dans différentes paroisses de l'île, donc selon la liturgie traditionnelle. Et je crois que les Maltais étaient très heureux, puisque ça fait à peu près seulement un an que la liturgie traditionnelle a fait son retour dans l'île. Et donc là, ils ont eu des offices chantés pendant une semaine et magnifiquement célébrés. Mmh. Et je crois que ça a produit une grande joie chez les fidèles.
Alors revenons à notre préparation des saints dons avant la messe copte. Donc je disais qu'il y a une petite cérémonie qui, à ma connaissance, est propre au rite copte, c'est que le prêtre va s'assurer que les dons qui sont présentés, le pain et le vin, sont de bonne qualité. Et donc le diacre présente le vin tout d'abord et le prêtre va le sentir pour juger s'il n'est pas tourné en vinaigre. Donc il l'approche de son nez, il le fait sentir également au diacre, et s'il sent que c'est du vinaigre, il doit le faire remplacer immédiatement. Et sinon, autrement, il répond « bon et béni ». Et de même pour les pains, on en apporte plusieurs. En général, ce sont des grands pains ronds, faits de blé pur. Ce sont des pains au levain, et pas des pains azymes comme en Occident, mais sans sel. Sur ces pains, on a marqué, c'est aussi quelque chose qui existait chez les Syriaques, qu'on va retrouver chez les Byzantins, on va faire des signes avec des tampons qui vont laisser des empreintes dans le pain. Et on fait au centre du pain une grande croix entourée de 12 petites croix qui représentent le Christ et ses 12 apôtres. Tout autour de ces croix, il y a le texte du Trisagion, Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, aie pitié de nous. On va percer ce pain en 5 lieux pour représenter les plaies du Christ, les 5 plaies, donc les 3 clous, la couronne d'épines et la lance. Alors ces pains sont présentés en nombre impair, 3, 5, 7, etc. Et le prêtre va choisir le meilleur pain, celui qui lui paraît le plus beau, et qui va être appelé l'agneau, puisqu'il deviendra le corps du Christ.
Et les autres, qu'en fait-on ?
Et les autres sont servis comme pain béni, en fait, comme logis à la fin. Et pendant ce choix, l'assemblée chante 41 fois Kyrie Eleison.
Et ça, c'est typiquement copte. Ça se fait pas dans les églises byzantines.
À ma connaissance, non. C'est le seul rite
pas
où
ça,
il y a
la paroisse de Sainte Trinité.
Non, non. Et donc il y a une. Ça rappelle un peu une prégustation de cérémonie de cour quelque part, en fait. Le prêtre va mouiller un peu de vin sur le pain en faisant un signe de croix. Il va le recouvrir d'un linge de soie et il va également se remettre un voile blanc de lin. Ce voile a une grande importance dans la liturgie copte, puisqu'il va symboliser à la fois les langes qui ont emmailloté l'enfant Jésus dans la crèche, et également la même figure avec le linceul qui a enveloppé le corps du Christ au sépulcre, en fait. Donc l'aspect symbolique de la cérémonie de la préparation des dons est très axé sur par les textes des prières qui sont dites sur l'ensevelissement du Christ. En fait. Chez les Syriaques et les Byzantins, ou chez les Dominicains également, la préparation des saints dons avant la messe est quelque chose d'assez privé, le peuple n'y prend pas part. En revanche, chez les Coptes, il y a un aspect public et assez démonstratif, puisque une fois que l'agneau a été choisi, le célébrant va faire une procession avec lui autour de l'autel. Il revient au début de la messe, où il va, au début du sanctuaire, où il va démarrer proprement la messe. La cérémonie de la préparation est faite. Ce début de la messe commence par une acclamation trinitaire, qui est celle-ci. Gloire et honneur, honneur et gloire à la Trinité toute sainte, Père, Fils et Saint-Esprit. Paix et édification pour l'Église de Dieu, une, unique, sainte, universelle et apostolique. Amen. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui t'ont offert ces oblations, ceux pour qui elles ont été offertes, et ceux pour qui elles ont été et ceux par qui elles ont été offertes. Donne-leur à tous la récompense céleste. On retrouvera une acclamation trinitaire semblable au début de la divine liturgie byzantine également. Mais là, le lien est fait avec la cérémonie de la préparation et le fait que les offrandes sont apportées pour le bien des fidèles. C'est un peu l'origine de notre offrande de messe, en quelque sorte, dans l'Église latine. On n'oublie pas que le sacrifice est offert pour ceux qui font les dons, en fait.
Alors je rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la plus grande France, de Benjamin Blanchard. Je reçois ce soir Henri de Villiers, maître de chapelle à la Scolaire Sainte-Cécile, paroisse Saint-Eugène à Paris, et à la paroisse russe catholique de la Très Sainte Trinité. Et nous poursuivons notre série d'émissions à la découverte des églises d'Orient. Et là, nous sommes dans le début de la messe copte.
Copte. Alors, cette procession du début va aussi marquer l'incarnation, symboliquement. Le prêtre donc porte le pain et fait le tour de l'autel. L'assemblée s'agenouille
il s'agenouille.
Oui,
c'est assez rare
assez
en Orient.
Rare, oui. Et le diacre.
Généralement, c'est plutôt des inclinations, des métanies.
Ouais. Le diacre va suivre le prêtre en portant le vin, ainsi qu'une bougie allumée qui symbolise que le sang du Christ va apporter la lumière au monde. L'assemblée se prosterne effectivement pendant cette procession Et le chœur va chanter pendant cette procession un Alléluia que nous allons écouter. C'est un enregistrement de 1967 qui a été réalisé au Caire. Et à vrai dire, j'ai choisi de prendre toutes les illustrations sonores de cette émission dans cet enregistrement qui est de bonne qualité, un peu ancien, un peu historique. Il a été réalisé sous le patronage de l'Institut des hautes études coptes du Caire. C'est une liturgie pontificale célébrée par un évêque dont je ne connais que le prénom, Grégoire. Il est entouré de trois prêtres. Sadi Katala est le diacre et chantre. Rageb Mofta, le maître de chœur et directeur musical. Donc le premier Alléluia, cet Alléluia qui est chanté pendant que le célébrant fait le tour de l'autel avec les diacres, voici son texte que nous allons écouter. Alléluia, voici le jour que le Seigneur a fait, soyons dans la joie et l'allégresse. Seigneur, donne-nous le salut, Seigneur, aplanis nos sentiers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia.
Donc c'était l'Alléluia de la procession des offrandes
au début de la messe, oui. Cet Alléluia est très caractéristique. Alors le texte qu'on a entendu là, c'est celui des dimanches, fêtes, samedi, temps pascal. Le texte change si c'est un jour de jeûne, mais c'est assez intéressant puisque c'est le texte que toutes les liturgies du monde entier chantent le jour de Pâques. Ec dies quam fecit Dominus, voici le jour que le Seigneur a fait. C'est le texte de la résurrection par excellence. Et même si la musique est un peu étonnante peut-être pour nos oreilles, mais on a quelque chose qui ressemble beaucoup à une structure d'Alléluia dans la
grégorien,
oui. C'est-à-dire qu'on a un Alléluia qui, avec un verset et encore un Alléluia à la fin, exactement comme dans la messe latine.
Est-ce qu'au début, ça commence par deux Alléluia comme chez nous?
Non, c'est directement un seul Alléluia. Mais on va retrouver notre Alléluia un peu plus tard, avant l'Évangile aussi. Un peu différent, mais il existe également dans la liturgie copte, comme dans quasiment toutes les liturgies, en fait. Voilà.
Alors après cette introduction avec la présentation des offrandes, comment commence vraiment la messe?
Alors, c'est pas fini, on va toujours utiliser cette offrande et le célébrant va bénir le pain, en fait, une bénédiction trinitaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, béni soit Dieu le Père, le Pantocrator, le diacre répond Amen. Béni soit son Fils unique engendré, Jésus-Christ notre Seigneur, le diacre répond Amen. Béni soit le Saint-Esprit, le Paraclet, le diacre répond Amen. Donc c'est la bénédiction du pain au début de la liturgie. Nous allons l'écouter toujours dans cet enregistrement de 1967.
Onu te
Alors, vous venez d'écouter ce très bel enregistrement de 1967, donc qui clôture ou pas, Henri de Villiers, cette prière sur les offrandes?
Ah non, toujours pas. on est toujours dans la proscomédie, la préparation des offrandes, qui est très développée, disais-je, et qui est assez publique, puisque beaucoup de prières sont dites et chantées à voix haute, alors que dans la liturgie byzantine ou syriaque ou dominicaine, ces prières, cette préparation est faite en silence pendant que le cœur fait autre chose. Le diacre va répondre au célébrant qui vient de bénir l'agneau de façon trinitaire, avec une louange trinitaire aussi, qui est intéressante parce qu'elle est, elle est en grec. On la retrouve d'ailleurs dans la liturgie d'autres églises, la liturgie byzantine en particulier. Donc nous allons écouter cette louange trinitaire en grec et en copte. On se souvient que 20% de la liturgie copte est toujours en grec et ça remonte au 1er siècle où dans les grandes villes on ne parlait que le grec, les campagnes seules utilisant le copte, l'ancien égyptien.
Mais avec l'alphabet grec.
Avec l'alphabet grec, oui. Avec quelques lettres supplémentaires ajoutées pour certains sons qui proviennent de l'ancien alphabet démotique lui-même, étant dérivé des hiéroglyphes. Mais effectivement, c'est une terre d'Égypte qui a été pétrie d'hellénisme à partir de l'arrivée d'Alexandre le Grand. Et tous les grands auteurs des premiers siècles, hein, Saint Cyril, Saint d'Alexandrie, Saint Athanase, Origène, les pères de l'école d'Alexandrie ont tous écrit en grec, en fait. Donc le grec est toujours une des langues liturgiques de l'Église copte. Alors voici le texte que nous allons écouter. « Un est le Père Saint, un est le Fils Saint, un est l'Esprit Saint. Béni est le Seigneur, Dieu, au siècle des siècles. Amen. Toutes les nations, bénissez le Seigneur. Louez-le, tous les peuples, parce que sa miséricorde s'est affermie sur nous et que sa vérité demeure pour l'éternité. Amen. Alléluia. » Donc c'est le diacre qui chante. Et ce « un est le Père Saint, un est le Fils Saint, un est l'Esprit Saint » se retrouve également dans la liturgie chaldéenne, par exemple.
Εις πατήρ Αγίος, εις Υιός Αγίος, εν πνεύμα Αγίων, αμήν. Ευλογητός Κύριος ο Θεός, εστός αιώνας, αμήν. Νιές νοστήρος μου αβυσσόης, μαρουής μου ερώφην γενηλά, Μην δε τσόι
Voilà, et pendant que le diacre vient de chanter cette louange trinitaire, en grec puis en copte, le célébrant va prendre l'agneau qu'il a choisi et le déposer sur la patène et va les recouvrir d'un grand linge qui correspond à notre corporal et qui s'appelle les prosphorines dans l'église copte. Alors c'est un grand corporal de grande dimension, exactement comme encore dans le rite lyonnais, où le corporal recouvre non seulement par-dessous, mais aussi par-dessus le pain et le vin au moment de l'offertoire.
D'ailleurs, si vous êtes ici, il y a les auditeurs de Radio Courtoisie de Lyon et qui souhaitent découvrir le rite lyonnais, il est célébré de nouveau à l'église Saint-Jules,
la collégiale Saint-Jules,
fraternité Saint-Pierre. Alors pour l'instant seulement à la messe basse.
Tous les dimanches matin.
Ah.
J'ignore les horaires, mais
voilà. Mais vous allez sur le site de la fraternité Saint-Pierre facilement. De Lyon, vous verrez les horaires et c'est aussi. Très intéressant et très beau surtout.
Voilà, ce corporal de très grande dimension, c'est quelque chose d'assez primitif. Dans le rite romain, on l'a réduit par commodité au cours des siècles. C'est un carré de tissu désormais qui ne fait qu'être sous le corps. La pale qui recouvre le calice est un souvenir de ce grand corporal qui enveloppait entièrement le corps et enfin le pain et le vin qui devenaient corps et sang de Jésus-Christ. Ensuite, l'assemblée participe à cette préparation en répondant au diacre qu'on vient d'écouter et par le Gloire au Père, Gloria Patri, et le peuple chante en grec, donc c'est Doxa Patri, Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen, Alléluia.
Alors c'était le Gloria, donc l'acclamation trinitaire chantée par la foule
en grec.
En grec. Mais en Égypte.
Oui. Et ensuite, on continue le cours de la préparation du pain et du vin. Le prêtre va se tourner vers l'Est et faire une série de prières d'action de grâce. Cette série de prières n'est pas propre à cet endroit de la messe, on peut la retrouver à d'autres moments des offices de l'église copte. On ne va pas l'écouter parce que c'est assez long comme récitatif liturgique, mais je vais lire les textes qui sont très beaux. Il y a un dialogue d'introduction entre le célébrant et le diacre et l'assemblée qui se fait encore en grec. Le célébrant commence par prions, oremus en fait, ça correspondrait à la collecte latine si vous voulez. Le diacre enchaîne avec pour la prière, levons-nous. Le célébrant, la paix soit avec vous, ce qui correspond au Dominus Vobiscum ou au Pax Vobis du prêtre ou de l'évêque dans la messe romaine. Et bien sûr, l'assemblée répond, et avec ton esprit, et cum spiritu tuo. La première prière, la première collecte est la suivante. Rendons grâce à Dieu, bienfaiteur et miséricordieux. Pardon. Père de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ, parce qu'il nous a protégés, aidés, gardés, reçus avec bonté, traités avec miséricorde et fait parvenir jusqu'à cette heure. Supplions-le encore de nous garder en ce saint jour et tous les jours de notre vie en toute paix, lui qui est tout-puissant, le Seigneur notre Dieu. Le diacre, prions. Les fidèles répondent Kyrie eleison. Deuxième collecte. le célébrandi. Ô Maître, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour toutes choses et en toutes choses parce que tu nous as protégés, aidés, gardés, reçus avec bonté, traités avec miséricorde et fait parvenir jusqu'à cette heure. Le diacre, priez pour que le Seigneur ait pitié de nous dans sa miséricorde, nous écoute et nous aide, qu'il agrée les supplications que ses saints lui adressent continuellement en notre faveur, et qu'il nous rende dignes de communier à ces mystères sacrés et bénis pour la rémission de nos péchés. L'Assemblée répond « Kyrie eleison ». Et enfin, troisième collecte, le célébrant, « Nous implorons ta bonté, ô ami du genre humain, donne-nous d'achever ce saint jour et tous les jours de notre vie en toute paix dans ta crainte. Éloigne de nous toute envie, toute tentation, toute œuvre de Satan, tout conseil des hommes méchants, toute attaque des ennemis visibles et invisibles. » Et il y a ensuite un développement de cette prière, de cette dernière collecte qui est un peu pour nous préserver du mal. Le prêtre va s'incliner vers l'est et faire le signe de croix sur lui. Éloigne-les de nous, éloigne ces puissances mauvaises. Il se tourne vers le couchant, vers l'ouest, va signer le peuple en disant de tout ton peuple, préserve ses ennemis, enfin préserve de toute œuvre de Satan, donc tout ton peuple. Il se retourne vers l'est et continue. Et de cette table sainte. Comble-nous de tous les biens et de tous les dons favorables, car c'est toi qui nous as donné la puissance de fouler aux pieds les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Et là, le peuple va répondre une petite phrase, Sotis Amin. En vérité, tu nous as sauvés, enfin, tu nous as sauvés, Amen. En vérité, tu nous as sauvés par ton esprit. Et c'est cette phrase que nous allons entendre qui est un beau mélisme, une très belle phrase musicale, avec la dernière partie de la prière du prêtre.
Ehomi jenni ho of nemni etchli neme jenti gomtir sentebi ga.
Voilà.
Très bel amen.
Très bel amen.
À côté, les amen grégoriens sont surtout très courts.
Effectivement, le chant copte se caractérise parfois par des mélismes très longs. D'ailleurs, la plupart des chants peuvent se chanter de façon longue ou brève, en fait. Ça dépend un peu de la solennité et puis du désir des chantres et des célébrants. Alors, ce qui est un peu troublant dans cette avant-messe copte, c'est qu'en fait, s'entremêlent deux rites. En fait, le rite de la préparation des oblats, la proscomédie, qu'on retrouve dans les liturgies syriaques et byzantines, et puis les prières habituelles du début d'une messe, c'est-à-dire la bénédiction trinitaire, l'Alléluia qu'on a entendu tout à l'heure, « Voici le jour que fit le Seigneur », qui est un peu une sorte d'introïte. Des collectes comme au début de la messe latine. Donc il y a une partie privée, une partie publique, et on rebascule avec une partie privée puisque le prêtre va faire une prière d'offertoire. Alors je vais la lire parce qu'elle est très belle, et puis on voit bien que contrairement à ce que les réformateurs du XVIe siècle pensaient, les offrandes dans les liturgies traditionnelles sont un peu plus précises sur le sens du sacrifice que ce que les luthériens voulaient bien admettre. Et ils ont beaucoup critiqué l'offertoire de la messe latine et ses prières secrètes. Mais on a tout à fait des équivalents ici. Alors, je vais juste dire la prière de l'oblation de la liturgie de Saint-Marc, qui est une des trois liturgies du rite copte. Seigneur Jésus-Christ, Fils unique et Verbe du Père, immaculé et égal à lui avec le Saint-Esprit, tu es le pain de vie descendu du ciel. Tu as voulu devenir l'agneau sans tache pour la vie du monde. Nous implorons et supplions ta bonté, ô ami de l'homme, de regarder avec bienveillance ce pain et ce calice que nous avons déposés sur ton autel sacré. Bénis-les, sanctifie-les et convertis-les, toi qui es présent au milieu de nous, accomplis pour nous cette liturgie mystique par ton Esprit Saint. Amen. Et les saintes espèces sont alors recouvertes par le prosfarine, ce grand corporal. Le prêtre pose un autre voile encore sur l'ensemble, s'agenouille, baise l'autel et va faire ensuite une absolution générale. Alors, en quelque sorte, ça remplit le rôle du kyrie de la messe latine, si vous voulez. On demande pardon à Dieu et le célébrant va faire une prière d'absolution des péchés de tous les assistants qui sont là, en fait. Ce qui est bien pratique quand même avant de communier. Voici le texte de cette absolution.
Oui. Avant que vous donniez le texte, Henri, je rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la plus grande France, de Benjamin Blanchard, et je reçois ce soir Henri de Villiers pour notre 7e épisode de Découverte des églises d'Orient, et nous sommes dans la deuxième émission sur l'église copte.
Voilà. Voici l'absolution générale donc, que fait le prêtre à ce moment de la liturgie. Que tes serviteurs, les ministres de ce jour, l'igoumène, le prêtre, les diacres, le clergé, tout le peuple et moi, ton humble serviteur, soient absous par la parole de la Trinité toute sainte, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Par la parole de l'Église de Dieu, une sainte, catholique et apostolique. Par la parole des 12 apôtres. Par la bouche du contemplateur de Dieu, l'évangéliste Marc, apôtre et martyr. Du patriarche Saint Sévère, de notre maître Dioscore, de Saint Athanase l'apostolique, de Saint Pierre, patriarche et martyr, de Saint Jean Chrysostome, de Saint Cyrille, de Saint Basile et de Saint Grégoire. Par la bouche des 318 pères assemblés à Nicée, des 150 réunis à Constantinople et des 200 rassemblés à Éphèse. Par la bouche de notre très saint père, notre grand prêtre, Amba, alors là c'est le nom du pape régnant, actuellement Tawadros II, pape d'Alexandrie et patriarche de la prédication de Saint-Marc, de notre métropolite Amba, on dit le prénom du métropolite, et de notre évêque Amba, et on cite le prénom de l'évêque. Et par ma parole, à moi indigne pécheur, car ton saint nom est béni et plein de gloire, au Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen.
Juste deux questions. Alors, Henri, trois questions. La première, que veut dire igoumène ?
Igoumène, c'est le supérieur d'un monastère. En fait, ça correspond à notre père abbé occidental.
Ensuite, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, ne manqueront pas de s'interroger parce qu'ils disent notre Église catholique. Alors, pourquoi ?
Oui, parce que toutes les églises orientales, catholiques ou non, disent toutes qu'elles sont l'Église, une sainte catholique et apostolique. C'est le texte du symbole de Nicée-Constantinople. Catholique, ça veut dire universel. Il faut le prendre en ce sens-là. C'est pas au sens ecclésiologique actuel d'église catholique.
Comme des églises catoliques parfois se disent orthodoxes au sens
exactement.
Où elles ont la vraie,
ont la vraie foi. Donc orthodoxe, ça veut dire celui qui a la vraie foi. Donc beaucoup d'églises catholiques orientales disent qu'elles sont orthodoxes dans ce sens, dans la liturgie.
Et alors, troisième question, est-ce que dans la messe latine, quand on prie pour le pape et l'évêque, est-ce qu'on prie également pour le métropolite ou pas ?
Non. C'est une particularité copte. On va retrouver plein de fois des prières à la fois pour le patriarche, pour le métropolite et pour l'évêque, en fait.
Voilà. D'accord, merci.
Et en fait, avec cette absolution, s'achève l'avant-messe, qui comprend donc à la fois une préparation des oblats et puis la procession avec l'oblat, en fait, je pense, avec l'agneau. La procession dans l'église que fait le prêtre, à mon avis, c'est l'équivalent de l'entrée du clergé qui existait un peu partout dans toutes les liturgies, qui a été un peu changée. Dans la liturgie byzantine, c'est la petite entrée du clergé dans le sanctuaire. Dans la messe romaine, c'est...
La petite entrée qui a lieu avant les lectures.
Avant les lectures, voilà. C'est l'introïte de la messe romaine aussi. Le prêtre s'avance vers l'autel. Il faut bien que le clergé entre à un moment ou à un autre.
Introibo ad altare dei.
Comme là, le clergé copte est là depuis longtemps dans l'église puisqu'il a chanté l'office divin. Cette procession originelle a été transformée en procession avec l'agneau, à mon sens. Mais on retrouve des éléments qu'on retrouve à cet endroit de la messe dans beaucoup de liturgies, la collecte, comme dans le rite romain, par exemple. C'est un ensemble de chants et de prières entremêlés de la préparation des oblats, ce qui est un peu l'originalité du rite copte, en fait, puisque ces deux aspects sont dissociés par ailleurs dans les autres liturgies. Alors, on va commencer enfin à la messe des catéchumènes proprement dite. Donc, et là, par un encensement, en fait, un encensement qui se fait aussi dans tous les rites, à peu près à l'entrée, au début de la messe. On l'a dans la messe latine, puisque le prêtre encense l'autel au début, avant l'introïte. Et dans le rite byzantin, le célébrant encense aussi en silence, juste avant le démarrage de la liturgie. En fait, l'idée, c'est de purifier le temple de Dieu avec l'encens et cet encens qu'on fait brûler en l'honneur du Seigneur.
L'encens est purificateur.
Oui. Et symbole de la prière aussi, en fait, hein, et donc nous élève vers une autre dimension. L'encensement dans la liturgie copte, comme dans toutes les liturgies traditionnelles, est quelque chose de très important et de très ancien. Le texte qu'on va écouter, c'est celui des dimanches et fêtes. D'autres textes sont chantés par le chœur pendant cet encensement. Ce texte, que dit-il ? Le voici. « Voici que l'encens d'or pur portant les arômes est dans les mains d'Aaron le prêtre qui offre et fait monter l'encens sur l'autel. » Donc un texte assez poétique pour évoquer ce moment de la liturgie.
Ah.
Vous écoutez Radio Courtoisie.
Et nous venons d'écouter le chant que chante le chœur pendant que les célébrants encensent l'autel, l'évangéliaire et toute l'église au début de la messe. La rubrique précise qu'il met 5 cuillères d'encens dans l'encensoir.
Alors donc toutes ces rubriques sont écrites. Il y a des missels,
des livres de liturgie, avec quand même des variations dans le temps. Il y a une certaine souplesse et des petites différences aussi entre les églises catholiques et orthodoxes. C'est un peu plus bref du côté catholique. Comme on pourrait s'en douter.
Depuis toujours, ou est-ce que ça s'est raccourci ces dernières décennies ?
La tendance actuelle, globalement, est d'essayer de raccourcir, puisque c'est l'ensemble avec l'office qui précède est quand même très long.
Est-ce que les fidèles sont obligés d'assister à l'office pour assister à la messe, comme c'est le cas en Éthiopie ?
Non.
Parce que je me souviens qu'en Éthiopie, les portes se ferment.
Les portes se ferment au début de la messe. On ne peut plus entrer ni sortir tant que la messe n'est pas terminée. Et donc, il faut arriver avant. Et avant, c'est pendant l'office nocturne, l'office des matines. Voilà. C'est assez radical. Ça...
On aura une autre émission sûrement pour parler de l'Éthiopie.
C'est un peu plus cool chez les... Enfin, je devrais mettre une pièce dans le cochon. C'est un peu plus gentil chez les Russes, par exemple, où c'est pas du tout gênant d'arriver 3 minutes avant la fin de la messe. Et c'est tout à fait normal, quasiment. Mais les Éthiopiens sont un peu plus rigoureux là-dessus. Juste après, oui.
Et donc, chez les Coptes, on a des livres de messe écrits.
Oui.
Donc, tout est. Mais la musique aussi ou pas ?
Non, la musique est purement orale en fait. Donc, mais il y a eu un grand travail de fait pour la sauvegarde des mélodies traditionnelles, avec des enregistrements qui ont été faits assez tôt et organisés par le patriarcat d'Alexandrie pour recenser toutes les anciennes traditions locales des différentes écoles de chantres. On trouve beaucoup de choses en ligne, en tout cas c'est une grande richesse pour pouvoir sauvegarder cette tradition purement orale en fait, nos jours.
Et est-ce que d'un point de vue liturgique, il y a des particularités locales comme on peut avoir en Occident avec des rites locaux ?
À ma connaissance, non, je ne pense pas. Il y a dû y avoir des variétés plus importantes dans le passé, et une convergence qui s'est faite au cours des siècles, puisque quand on regarde les manuscrits médiévaux, il y a d'autres liturgies que celles qui sont en usage actuellement qu'on retrouve dans les manuscrits des monastères.
Et pour la liturgie copte, il y a une seule liturgie ou est-ce que c'est des comme chez les Byzantins selon le...
Alors je voulais en parler après, mais on avait vu le principe avec les Syriaques notamment, avec ils avaient quoi, 86 anaphores, je ne sais plus exactement. Il y en a plus que 3 en usage chez les coptes. La liturgie de Saint Marc, qui est la plus antique, Saint Marc qui devient ensuite par la suite la liturgie de Saint Cyril, on dit que c'est Saint Cyril et Saint Athanase qui l'ont complétée. La liturgie de Saint Basile, qui est la messe ordinaire, celle qui est célébrée quasiment tout le temps, et la liturgie de Saint Grégoire de Nazianz, Grégoire le théologien, qui est célébrée aux grandes fêtes du Christ. La liturgie de Saint Marc ou de Saint Cyril, malheureusement, en dépit de sa vénérable antiquité, est quasiment plus célébrée. Et quand elle est célébrée, on l'insère dans le corps de la liturgie de Saint Basile, alors qu'il semblerait que tout le reste de la messe différait aussi. Mais c'est Saint Basile qui règne désormais, et ça commence à partir du baiser de paix et tout le canon. On a des prières différentes ensuite. Disons qu'il y a 3 canons, celui de Saint Cyril, de Saint Grégoire et de Saint Basile, qui est la liturgie ordinaire.
D'accord.
Après donc cet encensement au début de la messe, arrive une litanie, un peu comme la grande litanie de paix dans le rite byzantin, ou bien comme le Kyrie eleison que nous avons dans la messe romaine. Donc le principe est de demander pardon au Seigneur, et dans les L'Église copte, cette demande de pardon se fait par l'intermédiaire des saints qu'on va invoquer. Et là, c'est intéressant de lire ce texte, puisque ça nous renseigne en même temps sur la dévotion plus particulière envers tel ou tel saint de l'Église copte. Alors voici cette grande prière d'intercession, commence par la Mère de Dieu. Par les intercessions de la Mère de Dieu, Sainte Marie, ô Seigneur, accorde-nous le pardon de nos péchés. Par les intercessions des sept archanges, et des ordres célestes, ô Seigneur, accorde-nous le pardon de nos péchés. Par les prières de nos Seigneurs et Pères, les apôtres et les autres disciples, ô Seigneur, accorde-nous le pardon de nos péchés. Par les prières du témoin de Dieu, l'évangéliste Marc, l'apôtre, ô Seigneur, accorde-nous le pardon de nos péchés. On se souvient que Saint Marc est le fondateur de l'Église en Égypte. Il a été martyrisé à Alexandrie et le pape d'Alexandrie, le patriarche d'Alexandrie est le successeur de Saint Marc, de même que le pape de Rome, le patriarche d'Occident, est successeur de Saint Pierre. Par les prières du combattant et martyr, Monseigneur le prince Georges, ô Seigneur, accorde-nous le pardon de nos péchés. Il s'agit bien sûr de Saint Georges de Lydda, le grand saint soldat. Et on va voir qu'on invoque, encore deux saints soldats par la suite. Le suivant est Saint Mercure. Par les prières du combattant et martyr Philopater Mercure, ô Seigneur, accorde-nous le pardon de nos péchés. Alors Saint Mercure est un saint très en honneur en Égypte, c'est un martyr des persécutions du milieu du 3e siècle, mais il n'est pas du tout égyptien, il est de César, il est de Cappadoce, comme Saint Georges du reste. Et enfin, un troisième saint combattant, un troisième soldat, martyr, fameux, par les prières du combattant et martyr Abba Men de Faya, au Seigneur, accorde-nous le pardon de nos péchés. Alors, c'est Saint Ménas ou Saint Men, qui est connu aussi et vénéré parfois en Occident, il est dans le martyrologe romain, c'est un martyr de la persécution de Dioclétien. Par les prières de notre juste Père, le patriarche Abba Athanase l'Apostolique, ô Seigneur, accorde-nous le pardon de nos péchés. Il s'agit bien sûr de Saint Athanase, le grand docteur alexandrin, patriarche d'Alexandrie du IVe siècle. Par les prières des saints de ce jour, chacun selon son nom, ô Seigneur, accorde-nous le pardon de nos péchés. Par leurs prières, garde la vie de notre honoré Père, le grand prêtre Abba, alors aujourd'hui Théodore II, dans l'enregistrement il s'agit de Cyril, ô Seigneur, accorde-nous le pardon de nos péchés. Nous te prions au Christ, avec Dieu le Père et le Saint-Esprit, car tu es ressuscité et tu nous as sauvés, aie pitié de nous. Alors nous allons écouter cette belle prière d'intercession au sein du début de la liturgie copte. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous écoutions la grande litanie d'intercession au saint qui permet aux fidèles de demander pardon pour leurs péchés au début de la liturgie copte.
Copte en Égypte,
oui,
principalement.
Et ensuite, la messe des catéchumènes continue de façon tout à fait classique avec trois lectures suivies de l'évangile.
Alors, quelles sont les trois lectures ?
Les lectures sont dans un ordre assez inusuel. On commence par une épître de saint Paul en première lecture. Puis, on a une épître catholique, c'est-à-dire ces épîtres qui ne sont pas de saint Paul dans le Nouveau Testament, les épîtres de Pierre, l'épître de Jacques, de Jude, les épîtres de Jean. On les appelle catholiques parce qu'elles ne sont pas destinées à une communauté en particulier, contrairement aux épîtres de Paul qui sont destinées aux Romains, aux Corinthiens, aux Éphésiens. Elles sont adressées à tout l'univers chrétien en quelque sorte, d'où leur nom d'épître catholique. Et la troisième lecture est celle des Actes des Apôtres en copte et praxis, du grec praxis qui veut dire acte des apôtres. Et ces trois lectures sont chantées par le diacre.
Les trois sont chantées par le maire.
Oui. Avec des introductions, des conclusions. Il y a quelques textes intercalaires, mais très peu finalement.
Il n'y a rien dans l'Ancien Testament ?
Non, rien de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, il est aux vêpres, en fait, des grandes fêtes. Jamais, parce que c'est une conception qu'on retrouve souvent, c'est pareil chez les Byzantins, c'est pareil en Éthiopie, et c'est quasiment pareil dans le rite romain. L'idée est que la messe est le sacrifice de la Nouvelle Alliance, et donc on ne lit pas les textes de l'Ancienne Alliance dans la Nouvelle Alliance, en fait. On lit ceux de la Nouvelle Alliance.
Dans le rite romain, on a quand même les psaumes.
On a quand même les psaumes, oui, mais les lectures de l'Ancien Testament sont assez rares dans la messe romaine. Ça arrive quand même, hein, notamment au temps de Noël, mais c'est surtout le Nouveau Testament qui est lu à l'épître, d'où le nom d'épître du reste, puisque c'est quasiment tout le temps une épître de saint Paul ou une épître catholique. En revanche, le bréviaire romain lisait toute la Bible en commençant par la Genèse au dimanche de la Septuagésime, mais c'était à l'office de matine. C'est le cas aussi donc, dans ces rites orientaux. Les Coptes lisent l'Ancien Testament dans l'office des vêpres, surtout les veilles de fête en fait. Après ces trois lectures, quatrième lecture qui est celle du synaxaire. Le synaxaire, c'est le, comme son nom l'indique, c'est on se réunit, synax en grec, pour adorer Dieu, mais aussi pour faire mémoire, honneur des saints du jour. Et donc on lit les saints du jour, c'est une courte vie des saints qui sont célébrés ce jour-là dans l'église copte. Et voilà.
Et après, nous allons conclure cette émission oui. sur la lecture du synaxaire. Et en fait, le mois prochain, nous reprendrons la découverte de la liturgie copte avec le chant de l'Évangile.
De l'Évangile.
Si j'ai bien suivi.
Oui, tout à fait. Parfaitement. Donc, une structure très classique, des lectures qui se terminent toujours par l'Évangile et le sermon du célébrant.
Alors merci Henri de Villiers, merci chers auditeurs de nous avoir suivis